Nous vivons en ligne, nous respirons le contenu, nous consommons les médias comme de l'oxygène. Et nous sommes constamment bombardés d'avertissements sur la façon dont nous endommageons notre esprit avec tout ce scrolling, tous ces montages, toute cette stimulation. Mais si je vous disais que nous sommes au début de quelque chose de nouveau? Et si tout ce pourrissement cérébral était sur le point de changer? Je ne suis pas là pour vous faire honte d'utiliser les réseaux sociaux. Je ne vais pas vous dire combien d'heures d'écran sont acceptables. Je suis là parce que je pense que nous assistons au premier signe d'un changement majeur. Parlons de ce qu'est réellement le pourrissement cérébral. C'est ce sentiment d'avoir scrollé pendant des heures et de se sentir à la fois complètement surstimulé et totalement vide. C'est quand on regarde Netflix tout en parcourant Instagram et en écoutant un podcast à moitié. C'est quand on ne se souvient de rien de ce qu'on a regardé la veille, malgré 6 heures de visionnage d'affilée. On connaît tous ce sentiment. On le vit tous. Quand je dis « nous », je dis bien « nous ». Je ne suis pas au-dessus de tout ça. Pendant des années, on nous a dit que cela se produisait parce que notre capacité d'attention était détruite. Nous sommes accros à la dopamine. Nous sommes brisés. Mais cette explication semble trop simple, trop commode. Elle ne rend pas compte de ce qui nous arrive réellement. Pensez à quelque chose que vous avez vu en ligne et qui vous a vraiment touché. Une vidéo qui vous a fait ressentir quelque chose de réel, une chanson qui vous a transporté ailleurs. Nous avons tous ces moments qui détruisent immédiatement l'idée que notre cerveau est complètement grillé et incapable de se connecter à quoi que ce soit. La vraie question est, combien de contenu avez-vous dû éplucher pour trouver le morceau qui comptait vraiment? Des centaines de vidéos, des milliers, et vous souvenez-vous de l'une d'entre elles entre-temps? C'est le schéma réel. Nous ne sommes pas incapables d'être attentifs. Nous nous noyons dans une mer de contenu explicitement conçu pour être oublié immédiatement après sa consommation. Chaque plateforme, chaque créateur, chaque marque se dispute votre attention. Ils ont donc conçu du contenu pour qu'il soit de plus en plus émotionnel, de plus en plus stimulant, de plus en plus addictif. Ce n'est plus seulement une question de courte durée d'attention. Il s'agit de savoir qui parvient à créer l'émotion la plus intense en un minimum de temps. Les TikTok, c'est 7 secondes d'émotion pure et concentrée. Les chansons sont de plus en plus courtes et accrocheuses. Les vidéos YouTube sont montées à un rythme effréné. Rien de tout cela n'est révolutionnaire. Nous savons tous qu'Internet nous transforme. Nous le savons et l'avons toujours su. Mais nous entrons maintenant dans une nouvelle ère. Nous ne sommes plus seulement dans une ère de distraction. Nous sommes dans une ère de gratification émotionnelle impitoyable. Et cela devient de plus en plus intense chaque jour. Chaque fois que vous ouvrez une application, vous êtes bombardé de contenu plus beau, plus émotionnel, plus complexe, plus intense que la dernière fois. Cela semble incroyable si vous n'en considérez pas les implications. Mais à force d'être constamment bombardé de contenu, vous commencez à ressentir quelque chose d'étrange. Quelque chose qui n'a rien à voir avec une capacité d'attention défaillante ou des algorithmes addictifs. C'est un sentiment de vide, une peur étrange qui vous envahit après des heures de contenu émotionnellement saturé. C'est ce qui m'effraie le plus dans tout ça. Non pas que nous ne puissions pas nous concentrer, mais que nous soyons surchargés. Notre capacité à traiter l'information a des limites. Le contenu, non. Et ce débordement de stimulation numérique affecte notre façon d'interagir avec le monde qui nous entoure. Avez-vous remarqué à quel point il devient difficile pour nous de communiquer hors ligne? Des recherches suggèrent que notre génération souffre d'anxiété sociale plus élevée lors des interactions en personne. Ce n'est pas de notre faute. Quand on grandit dans un environnement où la communication numérique est primordiale, l'interaction en face à face devient une expérience étrange et brute que nous ne pouvons ni modifier, ni supprimer, ni organiser. Nos appareils sont devenus des systèmes de régulation émotionnelle externalisés. Se sentir mal à l'aise, sortir son téléphone, s'ennuyer, ouvrir TikTok, se sentir anxieux, faire défiler Instagram, se sentir seul, regarder YouTube, le problème n'est pas que ce soit des mécanismes d'adaptation intrinsèquement mauvais. Le problème est qu'ils deviennent nos seuls mécanismes d'adaptation. Et ils ne sont pas réellement conçus pour nous aider à faire face. Ils sont conçus pour nous maintenir engagés. Les systèmes qui diffusent ce contenu s'améliorent en matière de ciblage émotionnel. Ils apprennent ce qui vous met en colère, ce qui vous rend triste, ce qui vous fait rire, ce qui vous effraie, et vous servent toujours plus de contenu qui vous fait scroller. Toute l'infrastructure numérique est construite autour de ce modèle. Votre état émotionnel est le produit vendu aux annonceurs. Sommes-nous donc condamnés? Je ne pense pas, car il se passe quelque chose. Les gens se fatiguent. Vraiment fatigués. Pas seulement métaphoriquement, mais neurologiquement épuisés. Nos cerveaux n'ont pas été conçus pour traiter l'information avec le volume et l'intensité émotionnelle que nous leur imposons. Avez-vous remarqué combien de personnes parlent de détox numérique maintenant? Combien d'amis ont supprimé TikTok ou Instagram parce que ça leur faisait fondre le cerveau? Quelle douleur! Comment le terme « pourriture cérébrale » est devenu courant? Cet épuisement est en fait le premier signe que nous entrons dans une ère post-pourriture cérébrale. Quand on en a tellement marre de se sentir manipulé par du contenu émotionnel court qu'on se met à chercher autre chose, quelque chose de plus profond, de plus substantiel, c'est le début du changement. Regardez ce qui gagne du terrain. Des podcasts longs où les gens discutent pendant des heures. Des vidéos YouTube qui approfondissent un seul sujet sans montage frénétique. Des communautés se forment autour d'intérêts communs plutôt que de contenus partagés. Cela n'est pas dû à une soudaine amélioration de notre vertu. C'est dû à notre épuisement. Nos cerveaux réclament à corps et à cri de la cohérence, quelque chose qui ne nous déchire pas. Je pense que nous assistons à un mouvement de balancier. Nous avons tellement progressé dans une direction, vers la fragmentation, le micro-contenu, la curation algorithmique, qu'un contre-mouvement était inévitable. Les gens recherchent des expériences plus intégrées et plus cohérentes. Et ce qui est intéressant, c'est que les plateformes commencent à réagir non pas par pure bonté d'âme, mais parce que les forces du marché l'exigent. Si les utilisateurs sont insatisfaits, les plateformes s'adaptent. On reconnaît de plus en plus que l'optimisation uniquement pour l'attention est une course vers le bas. On finit par atteindre les limites biologiques de la perception humaine. Impossible de faire des vidéos plus courtes en dessous d'un certain seuil. Impossible de couper plus vite que le cerveau ne peut traiter. Alors, quelle est la prochaine étape? C'est de l'ère post-désintégration cérébrale dont je parle. Il ne s'agit pas d'abandonner les espaces numériques ni de revenir à une utopie pré-internet. Il s'agit d'évoluer vers quelque chose de plus durable, de plus nourrissant, de plus humain. Je pense que nous assisterons à une bifurcation des expériences numériques. D'un côté, le contenu algorithmique continuera de s'optimiser, de devenir plus précisément ciblé, plus calibré émotionnellement, mais de l'autre, nous assisterons à la croissance d'espaces qui rejettent explicitement ce modèle. L'ère post-désintégration cérébrale ne signifie pas un retour en arrière. Il s'agit d'avancer plus consciemment, de construire des espaces numériques qui enrichissent notre humanité plutôt que de l'exploiter. Cette transition ne sera ni facile ni transparente. Les attraits psychologiques du défilement infini et des flux algorithmiques sont profondément ancrés dans nos routines quotidiennes, et tout le monde ne la fera pas au même moment ni de la même manière. Pour beaucoup, en particulier les plus jeunes qui n'ont jamais connu autre chose, l'ère de la désintégration cérébrale est tout simplement normale. C'est l'eau dans laquelle ils nagent. Mais je crois que les signes du changement sont là, si on les cherche bien. L'insatisfaction croissante face aux expériences algorithmiques, la lassitude face à une stimulation constante, le désir de quelque chose de plus substantiel, de plus significatif. L'aspect le plus intéressant de ce changement est qu'il n'est pas motivé par une panique morale ou des réactionnaires technologiques. Il vient des natifs du numérique eux-mêmes, des personnes qui ont grandi en ligne et qui exigent désormais mieux. Car, au final, ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement notre façon de consommer le contenu, c'est notre façon de vivre la réalité, c'est notre façon d'interagir les uns avec les autres, c'est notre façon de nous comprendre nous-mêmes. L'ère post-décomposition cérébrale n'est pas inévitable. C'est une possibilité, une direction que nous pourrions choisir d'emprunter collectivement et individuellement. La reconnaissance que notre relation actuelle avec le contenu numérique n'est pas durable et ne nous sert pas.